Bienvenue au Polysécure épisode pour les PME. Je suis accompagné d'Emeline.
Et bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, de bonne humeur, comme tu peux le voir.
C'est un bon matin, un peu plus vieux, mais quand même, la bonne humeur est présente. C'est ça qui est essentiellement le plus important. Aujourd'hui, nous allons parler de Bring Your Own Device, BYOD, l'élément qu'on puisse apporter des équipements personnels en entreprise. Ça soulève les passions au niveau des entreprises et autant au niveau des utilisateurs parce que un et l'autre ont des points de vue qui sont peut-être un peu différents sur ce que c'est. Ben, je vais te laisser amorcer sur le sujet, puis bon, comme à l'habitude, je vais rebondir sur tes questions.
Ben oui, effectivement, en fait, il est de plus en plus courant qu'un employé utilise son propre appareil pour travailler. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on voulait amener cette thématique aujourd'hui. Tu sais, ça peut être... En fait, il y a deux volets, en quelque sorte. Il y a celui, l'employé, qui amène son laptop, qui travaille depuis son laptop à lui personnellement. Mais il y a aussi un petit peu, et des fois, on l'oublie, mais c'est l'entre-deux. L'entre-deux que l'employeur fournit un laptop professionnel, mais on prend quand même nos courriels sur notre téléphone perso. C'est que des fois, le Bring Your Own Device amène ton propre téléphone, amène ton propre appareil. Ça peut être juste un des deux aussi. Ça peut être, ben, j'utilise mon téléphone perso pour prendre mes courriels. Donc, c'est vraiment de plus en plus courant. Ça amène plein d'enjeux au niveau de la cybersécurité, oui, mais aussi au niveau de la déconnexion. T'sais, parce qu'on a tout le temps notre téléphone, on s'attend tout le temps à recevoir un message, puis il faut y répondre dans la minute. Donc, ça amène des enjeux au niveau de la déconnexion. Puis ça, d'ailleurs, si tu as besoin d'un invité sur le sujet, j'ai quelqu'un potentiellement qui parlera de ça avec beaucoup de passion. Mais là, il faut assurer quelque chose. Il faut assurer la pérennité. Il faut assurer la sécurité des données de l'entreprise. Et il y a certaines balises potentiellement qui doivent être clairement définies. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, vous n'allez pas trouver la réponse à « est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ?» de permettre à mes employés de travailler depuis leur appareil personnel. Vous allez vous faire une tête de toute façon parce que on va amener quelques recommandations d'exigences potentiellement à mettre en place. Et peut-être vous allez dire « oh là là, c'est trop de job ». Fait qu'à la place de demander et d'encadrer tout ça, je vais fournir un laptop à mon employé. Donc, il y a vraiment ces deux-là et il y a potentiellement aussi des employés qui nous écoutent et qui se disent « ah ouais, j'avais pas pensé que c'était pas une bonne pratique nécessairement ». Donc, c'est vraiment un petit peu le contexte dans lequel on veut vous amener aujourd'hui. Mais avant de rentrer peut-être dans les recommandations, toi, Nicolas Loïc, ton point de vue par rapport à ça, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la tendance et les irritants aussi possiblement par rapport à tout ça?
Il y a plusieurs axes à ça. Le confinement a amené une énorme, disons, une accélération du bring your own device de façon incontrôlée. Puis ça, c'est peut-être un peu le problème de cette situation-là, c'est qu'il n'était pas contrôlé. Donc, les entreprises ont perdu le contrôle de la situation, donc la capacité à surveiller. Puis là, les employés, tu sais, des fois, sont un peu frustrés de cette surveillance-là, mais jusqu'à un certain point, la compagnie est responsable et propriétaire des informations qui se promènent. Dans plusieurs cas, ces informations-là peuvent être considérées comme sensibles ou personnelles, donc même étaient assujetties à la loi 25. Donc, on a des obligations légales supplémentaires qui viennent s'ajouter ou là, juste le fait que c'est confidentiel parce que c'est la liste de clients ou la recette secrète qui fait qu'on est une business dans laquelle on a du succès. Donc, ces éléments-là viennent en contradiction et encadrer la réflexion. Les entreprises vont aller juste de façon trop sécuritaire, dire non, on veut rien savoir. Et les employés vont aller être trop libérales. Ils vont dire oui, moi, je vais être absolument libre de faire ce que je veux. Et donc, on sait, ces deux points-là s'opposent. Donc, les tendances vont naturellement se retrouver dans le milieu, tout dépendant des secteurs, des industries. C'est pour ça aussi, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de formule magique, puisque ça dépend vraiment dans quel secteur et dans quelle industrie on est. On dit dans du milieu, disons, plus de la recherche, par exemple, ou du milieu militaire. C'est peu probable qu'on ait beaucoup d'accès ou de liberté de ce côté-là. Dans un contexte service où on a beaucoup moins d'informations, disons, confidentielles ou contraintes, il y a beaucoup plus de probabilités que ça arrive, qu'on puisse le faire. Est-ce que là, les habitudes des employeurs vont s'adapter? Parce que ce que je vois refermer, ça se referme ces temps-ci. Les gens abandonnent toute la liberté qui avait été donnée pendant le confinement. Donc, de voir, je sais pas comment ça va se continuer, voir ça, mais effectivement, tout dépend du contexte. C'est comme, en général, en sécurité, tout dépend du contexte. Il n'y a pas de formule magique. On a juste des choses qui peuvent vous aider justement à réfléchir et à orienter, prendre la meilleure décision pour votre entreprise puis de naviguer là-dedans.
Et de toute façon, il faut se dire aussi que même si on met le cadre le plus rigide possible, on est des humains et ultimement, bah, l'humain aime beaucoup trouver des façons de détourner les systèmes dans tous les cas. T'sais, on le voit, t'sais, je donne un exemple qui est un peu loin de notre sujet, mais pas tant, qui est si jamais on bloque les ports USB sur des ordinateurs, ben c'est pas mieux de s'envoyer les informations sensibles par courriel. C'est même pire que de mettre ça sur une clé USB. Donc, tu sais, on vient colmater un risque, mais on vient ouvrir une autre porte. Et c'est un petit peu ça l'idée. Donc, même si on dit, moi, j'interdis mes équipes de travailler sur leur ordinateur personnel, leur appareil personnel, moi, j'en fournis un, je veux qu'ils travaillent juste là-dessus. OK, mais il y a le problème inverse qui apparaît en disant, ben sur ton appareil pro, est-ce que tu acceptes que tes équipes fassent des choses personnelles, aillent sur leur Facebook, aillent sur leur LinkedIn, aillent voir leur courriel. Donc, ça amène d'autres débats aussi, même si on reste sur un appareil professionnel, il y a des utilisations personnelles qui peuvent nous mettre à risque. Et donc, voilà. Donc là, on déborde un petit peu, mais ça, vous voyez, ça amène tout plein d'autres idées. Donc, au niveau des, personnellement, des recommandations, d'exigences que j'encourage le plus, et vous allez voir, il y a certains éléments qui s'appliquent autant aux appareils personnels qui sont utilisés pour travailler ou même un laptop professionnel. Les deux se valent. Donc déjà, on aime ça parler de mot de passe sur le podcast, mais c'est quand même des éléments importants. Et je trouve ça incroyable le nombre de personnes qui ne verrouillent pas leur appareil avec des mots de passe. Ou que même au bout d'un certain temps d'inactivité, l'appareil se verrouille automatiquement. C'est très, très commun que, juste qu'il ne se soit pas paramétré. Et ça amène des enjeux, que ce soit sur un ordinateur professionnel comme personnel, mais encore plus personnel, je trouve. Parce que quand c'est un ordinateur professionnel, on a peut-être la possibilité de, à distance, baliser, paramétrer la session administrateur et tout, mais quand c'est l'ordinateur de notre employé, on balise rien du tout, on gère absolument rien. Donc, de venir vraiment sensibiliser, encourager le membre de l'équipe à dire « Hey, c'est important que tu aies un mot de passe, c'est important, ou même la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, et ça, on pourrait s'en reparler aussi. Mais au moins qu'il y ait présence de cet élément-là et qu'en plus, au bout d'un certain temps d'inactivité, ça se verrouille automatiquement. » Et là, il y a plein de gens, surtout quand on est dans un contexte de télétravail, on a la maison, les gens disent « Ouais, mais il y a personne chez nous, il y a juste mon chum, il y a juste ma blonde, puis j'y fais confiance. » Mais ce que je dis à ces gens-là, c'est que c'est même pas une question de confiance. La confiance rentre même pas en ligne de compte. C'est que quand tu es au téléphone avec un client et que tu transfères de l'information sensible ou tu répètes des informations personnelles, s'il y a quelqu'un à côté de toi, cette personne-là, même si tu fais confiance, elle est juste pas supposée avoir accès à cette information-là. Donc c'est même pas une question de confiance, mais mot de passe, je pense que c'est non négociable. Je pense que j'avais déjà raconté une petite anecdote, que le genre d'amis que je suis potentiellement dans la vie personnelle, j'avais déjà expliqué que j'ai déjà mis une alarme sur le téléphone d'un de mes amis à 3h du matin. Une alarme parce qu'il avait pas de mot de passe sur son appareil, fait que j'ai mis une alarme à 3h. Je suis ce genre d'amis, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que j'insiste trop là-dessus, que c'est il y a d'autres éléments, de toute façon on va en discuter, mais qu'est-ce que tu penses déjà en partant de cette notion de protection physique de l'appareil en partant?
C'est un élément de base, qu'est-ce qui est couvert là. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les employeurs sont très réticents à donner le bring on device, parce que justement, les personnes ont tendance à être un peu, je dirais, négligents ou désinvoltes par rapport à ce genre de choses-là, parce qu'ils ne voient pas le problème associé à le fait de ne pas avoir de mot de passe ou ce genre de choses-là. Déjà là, si on est capable d'avoir une culture justement de sécurité chez les employés, donc ils sont capables de répliquer ça à la maison sur leur appareil personnel, déjà là, on est dans un univers de plus grande confiance, donc ça permet ou ça ouvre la porte justement à cet usage personnel des périphériques, parce que là, on a un niveau d'assurance au niveau de l'employeur, parce que là, on n'a pas de contrôle normalement sur l'appareil de l'employé, que celui-ci va faire attention à nos informations, plus que qu'à ses propres informations personnelles, évidemment, même s'il devrait faire très attention aussi à ses informations personnelles, au moins d'amener cette culture-là, cet avancement-là. Puis d'ailleurs, je vais faire une parenthèse parce que je ne l'ai peut-être pas spécifié. On ne va pas parler du secteur de la défense ou des secteurs où dans lesquels il est naturel qu'on n'ait pas de clé USB, qu'on n'ait pas de moyens de contournement, qui sont très, très stricts, parce que c'est un univers à part. Puis eux sont vraiment dans une autre chose. Il y a des contrats de travail très spécifiques. Congédiement automatique, c'est moi vraiment une tentative d'essayer de faire sortir de l'information. On n'est pas dans cet univers-là, on est dans un univers plus conventionnel, disons. Quand on va justement aborder ça de plus, je vais l'aborder plus sur cet angle-là aussi. Ce qui fait qu'effectivement, l'autre côté, c'est que les employés, puis ça, c'est toujours oublié le facteur humain quand on réfléchit à des mesures de sécurité, les gens vont contourner. Vont énormément contourner, puis c'est ce que je déplore énormément dans les équipes de sécurité, c'est d'oublier que l'humain est là et que l'humain va prendre des moyens pour justement se donner les moyens d'être plus efficace, d'être plus rapide, de se sentir performant. Puis c'est ça aussi qui est très important dans l'élément. Puis ça revient aussi au fameux ordinateur qui nous donne. J'ai rarement eu un ordinateur très performant au travail. Ça donne une certaine frustration. Mon ordinateur personnel, en tout cas, parce que il est pas vraiment personnel dans mon cas, c'est mon ordinateur corporatif qui est de ma compagnie. Il est super bien équipé, il est super efficace, je suis beaucoup plus rapide. Puis là, donc cette tendance-là, puis elle m'habite beaucoup. Puis je suis vraiment celui des défenseurs des utilisateurs de faire ça. Mais en même temps, comme je suis un professionnel, j'ai super strict. Mot de passe tout le temps, écran de veille embarque tout de suite, autant sur mes appareils cellulaires que sur mes appareils, les ordinateurs. Tout est vraiment fait comme ça, même si je fais confiance au monde dans ma maison, même si tout ça est mis en confiance parce qu'on est dans un environnement que... puis même encore là, tu veux dire, ça va être un peu plate, mais on sait pas si la personne avec qui on habite va être encore là dans un an avec nous. Si notre situation de couple va pas se visser pour X raisons dans un an, puis cette information-là va toujours vivre dans la tête de cette personne-là, même une fois qu'elle ne sera plus dans notre vie. Fait que, c'est tout de réfléchir à ce genre de choses-là. C'est un peu peut-être glauque à la limite, mais on est en sécurité, fait qu'il faut déjà anticiper les éléments, ces éléments-là comme ça. Fait que, effectivement, au début du confinement, ben moi, dans mon cas, j'ai un bureau séparé, ma conjointe a un bureau. Alors, on a chacun nos bureaux, on est vraiment dans nos environnements, on n'entend pas les conversations de l'autre, on est dans les choses. Nos sessions sont verrouillées, fait que c'est vraiment très important. On ne va pas jusqu'à verrouiller la porte de nos bureaux respectifs, mais on n'est pas très loin de ce genre de séparation-là parce que c'est nos environnements de travail dans lesquels on manipule les informations. Moi, dans mon cas, pas tant sensible que ça, parce que, tu sais, bon, on va dire, oui, la directive de machin, les gens peuvent dire que oui, ça pourrait être considéré comme sensible. La réalité, c'est non, parce que c'est comme une reprise de d'autres choses. Mais bref, moi, je manipule peu d'informations qui sont sensibles et encore moins d'informations personnelles. C'est moins un problème dans mon cas. Mais des gens qui sont dans un contexte de manipulation, ben là, on a des choses. Donc, oui, le mot de passe est essentiel. C'est la base. J'ai déjà été un ami comme toi de faire ça avec ça. Fait que mes amis ont tous des mots de passe. Fait que maintenant, je ne fais plus ce genre de blague-là de mettre un cadran. Moi, je sais pas, c'était pas un cadran à 3h du matin, mais moi, je mettais un mot de passe dessus sur leurs appareils. Fait que c'était d'autant plus frustrant à ce moment-là. Fait qu'ils étaient comme pris, coincés en dehors de leur appareil. Puis là, bref, ça donnait souvent une leçon assez importante.
Ah, c'était encore pire que moi, finalement. Je me dis, finalement, je me console quand j'entends ce genre d'histoire-là. Fait qu'on a dézoomé, on a regardé au niveau de la sécurité physique de l'appareil. Je rentre dans l'appareil maintenant. Au niveau des logiciels qui sont installés, je pense que quand c'est un appareil qui appartient à l'employé, qui ne nous appartient pas à nous, entité, c'est quand même important d'exiger l'installation d'un antivirus, de quelque chose pour protéger au moins l'écosystème interne de l'appareil. Là, il y a la question de dire « ouais, mais qui paye pour ça ?» Ben ouais, mais des fois, il vaut mieux payer et éviter des dommages, éviter des choses que de se dire « c'est pas moi de payer pour ça ». Ouais, mais ultimement, c'est quand même l'accès à nos données depuis ces appareils-là.
Ouais, ben celle-là, pour moi, elle est simple. Si je désire utiliser mon appareil, c'est pas imposé. Si c'est moi qui désire utiliser mon appareil, c'est ma responsabilité, donc de moi, à défrayer les coûts. Fait que si je suis pas prêt à défrayer les coûts, ben je suis pas prêt à utiliser mon appareil personnel. Fait que ça reste ça. Cependant, si c'est l'employeur qui exige que j'utilise mon appareil personnel, parce que ça arrive dans certaines circonstances, ben là, c'est effectivement la responsabilité et au niveau de l'employeur de défrayer les coûts. On va. Puis d'ailleurs, puis le petit partage, on l'a déjà fait dans d'autres podcasts, les antivirus ou EDR maintenant qui sont plus sophistiqués, c'est plus pour les ordinateurs portables. Android, dans certains égards, iPhone, ça n'existe pas. Fait que, on a dans ce paysage-là qui est là et c'est essentiel. Puis même ceux qui utilisent des Mac pensent qu'on n'est pas, c'est pas de, pas de danger. C'est plus vrai. Il y a de plus en plus de virus qui sortent justement pour voler de l'information. Donc, on n'est plus protégé comme avant parce qu'on était une cible intéressante. Maintenant, on est une cible intéressante. Donc, ils ont commencé de façon très importante. Puis 2023 est probablement l'année du virus Mac. Et puis, ça va être un changement important. Donc, de bien s'équiper de là aussi, c'est très important.
Ouais, petit big up à mon papa qui dit qu'il n'y a pas de virus sur Mac encore. Donc, exactement. Et puis, tu sais, on parle d'antivirus, bon, de ce type de logiciel de protection-là, mais on peut penser à tous les autres logiciels connexes. Tu sais, ça existe encore des logiciels craqués, des logiciels, ouais, je pense craqués, c'est en français, en tout cas des logiciels que tu n'as pas payé pour, que tu as comme trouvé une petite porte et tu l'as installé sur ton ordi. Je connais, et c'est histoire vraie, là, je connais vraiment des entités, des entreprises qui permettent à leurs employés d'utiliser leur appareil personnel, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des licences qui étaient craquées, genre des Adobe de ce monde qui utilisaient des versions craquées, mais c'est une porte d'entrée incroyable qui laisserait rentrer d'autres choses, qui donnerait accès aux données. Et donc ça aussi, c'est, ça revient à la responsabilité, c'est à qui de payer. Mais indirectement, si c'est une exigence, comme tu le disais, que l'employé utilise son appareil personnel ou parce que la personne est à l'étranger, donc ça devient un peu plus compliqué de lui envoyer des appareils de toute façon, donc elle utilise le sien, mais il faut lui donner tous les outils pour qu'elle travaille en sécurité. On peut pas se permettre de laisser une personne travailler avec des logiciels craqués, selon moi. Qu'est-ce que t'en penses?
Absolument pas. Puis en plus, c'est un vecteur d'infection tellement grand qui depuis tous les temps, là, depuis le temps que ça existe, des logiciels craqués, ça a toujours été un vecteur très important de tout ça. Puis c'est là encore plus maintenant. On l'a vu, je pense qu'il y a des campagnes en 2023 qui ont eu lieu spécifiquement sur ce genre de choses où les gens téléchargent un qui pense être un logiciel craqué qui est finalement infecté avec d'autres choses. Donc non, à ne jamais, jamais, jamais faire. Au-delà du fait que c'est illégal parce qu'on brise le droit d'auteur, on ne paye pas décemment le l'auteur du show. Si vous n'êtes pas content de payer, puis là, tu parlais d'Adobe, si vous n'êtes pas content de payer le montant que ça coûte, ben prenez une alternative. Il y a des alternatives à ces logiciels-là qui sont soit moins dispendieux ou même à la limite, dans certains cas, gratuits. Donc, privilégiez ce genre d'usage-là plutôt que d'aller chercher des logiciels craqués parce que sinon, vous courez après les problèmes. Là. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Là.
Ouais, non, clairement. Et puis, tu sais, si je vais dans une autre branche un petit peu, tu sais, on l'a vu, télétravail, les enfants à la maison, les devoirs à la maison, les devoirs sur ordinateur, etc. Et je vais dans une autre direction en disant que si l'appareil personnel qui sert aux tâches professionnelles, il est aussi utilisé et partagé par quelqu'un d'autre que cette personne-là, c'est que c'est un appareil qui est partagé par plusieurs membres de la famille. Selon moi, c'est hyper important de venir cloisonner la session de travail des autres sessions. C'est sur l'ordinateur d'avoir deux sessions différentes, une pour travailler, une pour accéder aux données de l'entreprise et une autre pour faire les devoirs de l'enfant. C'est d'avoir vraiment deux sessions séparées pour cloisonner le risque et pour faire en sorte que ben, quand je suis pas là, que mon jeune ne peut pas aller sur ma session et faire pas n'importe quoi, mais en tout cas mettre à risque aussi d'une certaine façon. Ça c'est très très peu connu comme, et en plus ça coûte rien, pour de vrai ça coûte rien, c'est juste au niveau du paramétrage de la machine, mais très très peu vont le faire parce que oh non c'est fatigant de switcher d'une session à l'autre, mais pourtant.
On revient encore sur la protection avec mot de passe parce que le changement de session est justement un mécanisme qui met en place justement la protection par mot de passe de nos données ou des données qu'on donne à notre employeur sur notre ordinateur personnel. Puis tu sais, on va aller plus loin, tu sais, avoir du chiffrement sur ces machines-là, sur Mac, c'est maintenant, ben, depuis plusieurs années, c'est automatique. Mais ça ne l'était pas avant sur Windows. Ça va devenir automatique si ça ne l'est pas encore dans vos appareils. Je pense que Windows 10, ça ne l'est pas. Je pense qu'en Windows 11, je pense que c'est devenu automatique. Mais ça, je peux me tromper. Je ne suis pas très bon dans ces domaines-là. Mais si ça ne l'est pas activé là, ça fait partie des mécanismes sur ordinateur portable que vous devez mettre en œuvre en plus, ce qui va protéger le fait que si vous partez, en plus, vous partagez. Moi, je n'aime pas l'idée de partager. Je suis vraiment hyper inconfortable avec cette idée-là parce que la probabilité de faire des erreurs est très grande. Mais bon, si cette situation-là, elle est acceptée, justement, cette séparation-là est essentielle. Et le chiffrement est d'autant plus essentiel parce que chaque bloc de stockage personnel va être chiffré avec une clé distincte. Donc, même si je réussis à trouver, à contourner les moyens de contrôle du système d'exploitation, le chiffrement va m'empêcher de voir le contenu. Donc, je protège décemment l'information de mon employeur à ce moment-là. Et en plus, si j'ai de l'information personnelle sous mes lois 25, c'est encore d'autant plus important que cette information-là soit chiffrée parce que si je venais à perdre l'information ou si quelqu'un dans ma famille accédait à l'information, ça devient un incident de confidentialité. Donc, on est contraint à la loi et donc ça devient un bordel légal dans lequel, généralement, on n'essaie pas d'aller. Juste comme ça.
Ouais, on évite généralement. On a déjà assez de soucis si on s'en évite quelques-uns. Il y a tout ce qui touche le stockage des données plutôt. Je pense que au niveau de cet appareil personnel-là, idéalement, aucune donnée de l'organisation devrait être stockée à même l'ordinateur, à même les fichiers de l'employé. Tout devrait vraiment toujours se retrouver en lieu sûr sur les serveurs, sur l'outil InfoNuagique, si c'est ça qui est mis en place. Je pense sincèrement que, parce que sinon il y a des risques de perte. On n'a jamais la dernière information à même dans nos dossiers, dans nos fichiers à nous. On se dit, il y a toujours, et puis ça, c'est un enjeu qui peut arriver aussi bien avec un ordinateur professionnel, hein, dans mes fichiers téléchargés, dans les dossiers, etc. Mais idéalement de maintenir la bonne pratique de, on veut tout toujours centraliser à la bonne place pour éviter la perte des renseignements, la perte que si jamais, et puis justement on va en parler de si cette personne-là quitte, qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais ça amène tout plein d'enjeux. On parle beaucoup d'ordinateurs, de téléphones, mais on peut penser aux imprimantes aussi. tu sais, les imprimantes qu'on a à la maison, qui sont des appareils personnels. Ça, j'ai l'impression, avec le Covid, on s'est tous ramassés à la maison et à imprimer avec nos appareils personnels à nous. Et ça a jamais été balisé, même encore aujourd'hui, je le vois. Et bien que peut-être c'est permis d'imprimer depuis son propre appareil, bah, il faut faire super attention à toute la suite, toute la destruction des documents. Tu sais, il y a peut-être des informations sensibles sur l'organisation, sur des clients. Et il y a encore, tu sais, quand on était au bureau, on avait des bacs de recyclage qui étaient fermés à clé, puis que ça s'en allait être déchiqueté. Donc ça s'en allait pour être détruit. Mais à la maison, j'ai pas de déchiqueteuse. Est-ce que je mets ça au recyclage? Est-ce que c'est une bonne idée? Et la réponse, c'est non. Il y a encore énormément de vols de courrier, de vols dans tout ce qui est recyclage, dans toute cette paperasse-là. Donc, ça aussi, je pense que c'est à baliser et à pas oublier, à mettre dans la loupe. Qu'est-ce que t'en penses de cet aspect-là?
Oui. Ben moi, j'en ai une déchiqueteuse. Naturellement, là, c'est pour avoir traité des dossiers qui sont plus sensibles. Effectivement, je déchiquette ça. Au même pire que ça, j'ai un bac dans lequel je mets mes papiers comptables. C'est peut-être, à la limite, c'est peut-être discutable, mais une fois par année, je m'en allais brûler. Fait que c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus une capacité de recomposition. Parce qu'on pourrait plaider que le déchiquetage a ses limites et en ce moment-là, on serait capable de reconstruire. Je crois pas que les documents que je manipule ont cette valeur suffisante pour être reconstruits. Mais cependant, je demeure quand même sur le fait que je vais brûler probablement une bonne partie de mes documents. À chaque année, à chaque été, on se loue un chalet, on va là, puis on brûle tous nos papiers confidentiels à ce moment-là qui n'ont plus besoin d'exister. Donc, on a une destruction complète de l'information. Fait que oui, mais les imprimantes, c'est ça, c'est de faire très attention. Je sais que les entreprises ont été très tiède à autoriser ça sur les appareils corporatifs à l'amener à la maison de justement permettre l'impression justement parce qu'ils ont cette inquiétude-là. Justement parce qu'encore là, les gens sont un peu désinvoltes tant qu'à la gestion de tout ça, vont laisser traîner les papiers à la maison, les enfants et ainsi de suite, tout ça va se mettre encore dans un contexte de sécurité physique, donc de mettre ça sous clé, comme au bureau, dans un lieu sécurisé, ne pas laisser traîner. Donc, cette discipline-là doit aussi... C'est un peu une hygiène, puis en plus, revenir, c'est une question de discipline à la langue de tout appliquer, ce genre de choses-là. Fait qu'une fois qu'on a inclus cette forme de discipline-là, cette démarche-là, cette habitude-là dans nos vies, ça ne devient plus un irritant de quelque chose. On fait juste y penser, c'est naturel, on fait juste... Puis on met en œuvre justement les moyens qui viennent protéger les informations que notre employeur nous confie. Là, il nous fait confiance quand même. Là, fait qu'il ne faudrait pas trahir cette confiance-là en créant un problème.
Non, tout à fait. Tout à fait. J'aime beaucoup les exemples que tu donnes. J'aime beaucoup l'idée de faire un feu. Ça devient même une routine. Ça devient même le mot m'échappe, mais en tout cas, un big moment là. Ensuite, il y a des questions un peu plus sensibles, mais qui est tout de même très important de clarifier, selon moi, dès le début. Mais même si vous avez des employés qui utilisent leur appareil personnel en ce moment, la discussion est à mettre sur la table tout de même. Mais c'est ultimement, je vais poser la question, mais vous connaissez la réponse, c'est qui sont les propriétaires des informations sur l'appareil personnel de l'employé? C'est aller où la limite? Qu'est-ce qui vous appartient à vous en tant qu'entité? Qu'est-ce qui reste la propriété de l'employé en tant que tel? Donc, ça va être important de mettre par écrit que votre organisation, elle demeure propriétaire des données professionnelles qui se trouvent sur l'appareil personnel de l'employé. Ça faut que ce soit écrit quelque part, sinon la personne peut quitter et puis ben, ça m'appartient, c'est sur mon ordinateur. Donc, il faut mettre toujours les choses par écrit le plus possible. Et ensuite, justement, j'ai quelqu'un qui quitte, la personne part, il y a un départ. Qu'est-ce qui arrive avec les données de mon organisation qui sont sur cet appareil personnel-là? Donc, l'employé, oui, devrait s'engager à remettre l'entièreté des données qui appartiennent à l'entreprise, qui se trouvent sur son appareil personnel, et idéalement, n'en conserver aucune copie. Mais il faut mettre ça noir sur blanc, encore une fois. On pourrait faire signer, au départ de la personne, faire signer un document confirmant que toutes les données professionnelles qui sont présentes sur l'appareil personnel ont été retournées à l'entreprise. Je pense que ça va de soi. S'il y a besoin de modèles, les gens peuvent me contacter. J'ai ça sous la main aussi. Et dernière idée, je te laisse rebondir ensuite, c'est qui est tenu responsable en cas de perte, en cas de vol du matériel, de l'appareil? C'est en cas de perte, de vol, il devrait potentiellement être écrit noir sur blanc que dépendamment de la situation, dépendamment de ce qui est arrivé, l'employé serait entièrement responsable. En cas d'accès non autorisé, que ce serait, en tout cas, tu sais, il y a plein d'idées et plein de zones aussi à aller clarifier. Si la personne se fait cambrioler, bon, ben, tu sais, il y a toujours des histoires d'assurance, il y a des assurances pour ça, là, là, là. Mais bon, même si on a des assurances, on reste peut-être potentiellement victime d'un incident de confidentialité et on a plein de devoirs à faire avec ça. Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui sont des points plus sensibles, qui sont des points où est-ce que c'est des discussions qu'on veut pas avoir ultimement parce que c'est plus touché, mais d'un autre côté, il faut avoir ces discussions-là. Qu'est-ce que tu en penses de ces aspects, donc au niveau de la perte, du vol, la responsabilité, donc, et si quelqu'un quitte, qu'est-ce qui arrive?
Ben, moi, étant qu'un contractuel, en général, ces genres de contrats-là sont inclus dans mes clauses contractuelles dans chacun de mes clients. Donc, moi, je suis très habitué de signer le fait de m'engager à détruire mes informations au bout de 30 jours, je pense, après la fin du mandat. C'est quoi? Et puis de dire comment je le détruis, tous ces informations. Pour moi, c'est très régulier. Je m'inquiète pas avec ça. Puis pour moi, c'est naturel de le faire. Est-ce que c'est tout le, est-ce qu'au niveau des employés, ça l'est? Probablement pas autant parce que justement, on a eu cette espèce de confiance qu'on a face à nos employés dans lequel on n'est pas, puis tu dis la conversation pas le fun. Oui, effectivement, c'est pas une conversation agréable parce que dans la tête de certaines personnes, ça veut dire, ouais, mais tu me fais pas confiance. La réalité, c'est pas tout à fait une question de confiance. C'est une question de clarté de des attentes et des choses qui sont attentes. Justement, pour qu'on n'ait pas cette ambiguïté-là en fin de contrat de travail que, ben là, t'es parti avec toutes mes informations, puis là, on a une chicane. Pour éviter une chicane, vaut mieux le prévoir d'avance. Il y a bien des choses, il y a bien des choses dans la vie, vaut mieux faire ça dans un moment où on est heureux, qu'on est content, que ça va bien, que d'y arriver à la fin, puis de chicaner, puis de se déchirer, puis des choses comme ça. Fait que c'est beaucoup dans cette perspective-là que les choses doivent être regardées. Un peu comme on voit des choses de la vie, comme les contrats de mariage, les contrats, les testaments, toutes ces affaires-là doivent être faites à un moment où on est heureux, où tout va bien, pour que prévoir les moments plus difficiles. Puis si les moments difficiles se présentent, ben à ce moment-là, d'avoir des façons claires de régler cette situation plus difficile-là et justement d'éviter de tomber dans des complications légales généralement en plus, puis des poursuites, puis des éléments comme ça qui généralement sont pas très agréables puis qui sont pas souhaitables dans bien des cas là, d'arriver dans ces chemins-là. Fait que oui, ayez ces conversations-là, soit que ça soit clair. Pour moi, ça a toujours été clair que je ne suis pas propriétaire de ces informations-là. Parce de ma culture, mais je connais beaucoup de gens avec qui je côtoie au travail que c'est pas aussi clair que ça. Puis même un certain point, puis je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises, c'est ça, tu me fais pas confiance, bla bla bla. C'est pas ça. C'est juste qu'on veut être sûr que tu comprennes la propriété de l'information et que celle-ci soit, tu partes pas dans une ballonne d'un coup que tu décides de suivre sur le top.
Exact, exact, exact. Mais c'est un petit peu les idées que je veux amener et que je voulais amener. Je sais pas à quel point les gens se sont peut-être plus outillés, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion et je pense que le message à travers tout ça, c'est de dire, posez-vous, et je sais qu'on n'a pas le temps de se poser, mais c'est important pareil, posez-vous, si c'est votre cas en ce moment, si soit vous songez à permettre l'utilisation des appareils personnels de vos équipes, ou bien que c'est déjà le cas en ce moment, reposez-vous sur vos propres fondements en disant qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux baliser. On a abordé plusieurs aspects, le fait de mettre plusieurs choses par écrit aussi, et que voilà, ce soit d'un commun accord, hein. Et comme tu dis, c'est tout se passe bien, c'est le moment, quand tout se passe bien. Parce qu'après, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et de marteler, effectivement, que c'est pas une question de confiance, c'est qu'on a des réglementations, on a des exigences à respecter, et il faut encadrer tout ça le plus possible. Et au moins, tout le monde dort sur ses deux oreilles. Donc, moi, c'est vraiment les idées que je voulais amener. De ton côté, est-ce que penses-tu qu'on a oublié certains éléments en lien avec ça?
Ouais. Peut-être pas oublier, mais faire peut-être un point, parce qu'on a parlé plus des ordinateurs portables plus que des téléphones dans ce cas-ci, puisqu'on a déjà parlé longuement des téléphones dans d'autres contextes. Toujours s'assurer que les outils technologiques qu'on met en main, parce que là, certains logiciels sont plus mettre un meilleur encadrement. Je vais prendre naturellement la suite de Microsoft M365 sur appareil mobile, permet un énorme contrôle de ce qui est fait avec ça. Fait qu'on est capable d'aller en toute sécurité déployer des choses comme Outlook ou M365 de façon générale sur appareil mobile comme les iPads, les Android, les iPhones. Il n'y a aucun problème de ça parce que la bulle de sécurité est en place, donc elle permet de protéger. Mais c'est un cas spécifique. Vérifiez si les autres le font, si les autres atteignent les exigences que vous avez en termes de contrôle de l'information sur appareil personnel. C'est pour ça que sur portable, c'est un peu plus difficile parce que de ceux-ci, on n'a pas ce degré de contrôle-là ou cette visibilité-là sur l'information. Donc, c'est d'où l'angoisse qui habite les décideurs là, de perte de contrôle. Donc, de voir à ce moment-là, de l'analyser, de toujours prendre le temps de regarder. De toute façon, ils peuvent te consulter justement pour approfondir ces dossiers-là parce que c'est très, très important que ça soit contextualisé tout le temps, que ça soit vers un côté ou vers l'autre. C'est possible de pas aller vers tout l'autre parce qu'on a besoin de souplesse, mais savoir où on se situe dans le milieu par rapport à nos besoins, justement, de consulter un professionnel qui va être capable de vous guider correctement, prendre le meilleur choix pour tout le monde. Ça, moi, ça compléterait.
Ouais, non, mais super, super pertinent. Puis on le voit justement, dès qu'il y a un peu plus de contrôle, dès qu'il y a un petit peu plus de balises, ben, les employés sont souvent moins confortables à dire, ah, ben, la personne me suit sur mon téléphone, alors que c'est pas ça non plus. C'est juste de mettre un cadre, de baliser et de pas d'espionner non plus. Mais effectivement, la question se pose et l'inconfort est quand même légitime. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait en tête. Posez-vous les bonnes questions, réécoutez le podcast ultimement pour voir certains aspects, puis effectivement, posez-nous vos questions si jamais il y a certains aspects où vous êtes comme ouais. Peut-être vous avez pensé en nous écoutant à quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé. Alors dites-le nous, là aussi, on va se refaire un plaisir de faire un retour potentiellement.
Absolument. Merci.
Un grand merci.